What is that? What the fuck is that?
Radio Campus.
Just makes you want to dance, doesn't it?
Radio Campus. 88.3 FM.
Radio Campus 88.3 FM. Le moulin à parole. Restitution d'ateliers radiophoniques et paroles partagées. Le moulin à parole.
Saint-Paul des Arts. Lycée Saint-Paul-Bourdon-Blanc, Radio Campus 88.3. Les BTS.com vous présentent leur émission sur Radio Campus 88.3. Culture, sport, musique, écoutez-nous sur Radio Campus 88.3.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus, la voix de la jeunesse et de la culture. Je suis en compagnie de Priscille, vous écouterez votre rendez-vous hebdomadaire où nous explorons les diverses facettes de la vie étudiante.
Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'événement organisé par le lycée Saint-Paul-Bourdon-Blanc au cœur d'Orléans, l'événement Saint-Paul des Arts fondé autour des Jeux Olympiques.
Tout au long de cette émission, vous écouterez les élèves du BTS Communication du lycée Saint-Paul-Bourdon-Blanc et parleront de différents thèmes choisis par nos camarades.
Restez avec nous alors que nous explorons différents thèmes comme la mode, le cinéma ou encore les arts tels que la danse, le sport et bien d'autres thèmes.
Vous êtes prêts? Alors attachez vos ceintures car nous partons à la découverte du lycée Saint-Paul ici sur Radio Campus.
Sans plus attendre, nous laissons la parole à Malou, Léa et Chloé pour parler du BTS Communication et de ses spécificités.
Nous avons donc été présentés comme étudiants en BTS Communication, mais savez-vous en quoi consiste cette formation?
Pour commencer, notre formation se déroule sur 2 ans, durant laquelle on aborde différents aspects de la communication, comme la conception de supports de communication avec des flyers, des pliants, sites internet ou vidéos, et bien d'autres choses encore, mais également l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de communication. On apprend aussi à coordonner des projets en collaboration avec différents commanditaires, tout en veillant au respect des délais et du budget.
Travailler en collaboration avec des commanditaires tels que des associations dans notre cas nous permet d'apprendre la mise en œuvre et le suivi d'actions de communication internes et externes. Enfin, à travers cette formation, on utilise plusieurs logiciels pro afin de réaliser nos projets comme Illustrator, InDesign, Photoshop, Adobe Premiere Pro ou encore WordPress.
Après le BTS.com, qu'est-ce qu'on fait ?
Après le BTS.com, les possibilités sont larges. Cela va de la poursuite d'études à la professionnalisation. Le choix se fait en fonction des métiers que l'on souhaite exercer. Au niveau des études, on peut continuer en licence, soit à la fac ou dans les écoles spécialisées, soit de communication, de journalisme, de graphisme, etc. Et du côté professionnel, on peut devenir assistant de communication, community manager, celui qui est en charge des réseaux sociaux, webmaster, celui qui est en charge des sites internet, chef de projet événementiel ou encore attaché de presse. Mais les possibilités sont encore plus nombreuses.
Maintenant, d'un point de vue plus général, quels sont vos avis sur le type de formation que vous suivez ?
Selon nous et plusieurs personnes de notre classe, ce type de formation offre l'avantage d'être formé sur une courte période, de se professionnaliser avec les périodes de stage qu'on a. Pour notre BTS, le rythme de travail en première année est agréable, la charge de travail est raisonnable. Faire un BTS permet d'être encadré car elle se déroule dans un lycée, ce qui laisse moins de liberté à une vie étudiante classique, mais elle nous demande quand même d'être autonome et nous permet d'avoir un suivi de notre formation de la part de nos professeurs.
De plus, cette formation, malgré qu'elle soit en initiale et en lycée, elle propose de la pratique en plus de la théorie, notamment avec des offres qui proviennent d'entreprises extérieures, avec de vrais projets de communication. Cette formation est également professionnalisante car elle comporte 16 semaines de stage sur nos 2 années, où nous pouvons mettre en pratique nos compétences acquises durant nos cours.
Maintenant, vous en savez un peu plus sur notre BTS. N'hésitez pas à vous renseigner auprès du lycée Saint-Paul-Bourdon-Blanc et même pour découvrir d'autres formations.
Tout de suite, un son de Travis Scott, I Know.
Tell me, is you still loving? It's 5 a.m. and I'm drunk right now. Tell me, can we still fuck? 101, I'm in the zone right now. Tell me, am I still? I'm telling you just how I feel right now. You say it's just the drugs. And I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. I lied to you way before I had you right in some room. I can be drunk, yeah. Baby, I don't wanna sound
I'm righteous. Yeah. I got 20 bitches sucking like bisons. I just any mini money roll of dice since I pick. She ain't even really my type in out here. She been losing herself to the night shift. She been losing herself and I guess. Oh girl, yeah, I get it. Yeah, and you've been fighting for your shot and you've been searching for your spot. Girl, I fit it. Yeah, girl, I fit it. Yeah, oh, you think you got your groove? Or you want someone like you? Tell me, is you still love? It's 5 a.m. and I'm drunk right now. Tell me, can we still fuck? 101, I'm in the zone right now. Tell me, am I still? I'm telling you just how I feel right now. You say it's just the drugs. And I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. I lied to you way before. Before, before I had you right in some
room.
Then again, I can be drunk.
Mommy, I know it's 2 a.m. Don't stress. Check 3, that boost shit kick in. And 30, you feel your best. I turn my whole spot to crucial. It's crucial the way I left. Upstairs is like a lure. A lure bitch just be the best.
I'm looking at her when her starting to turn into you. Now you starting to fuck up my mind. Is it you? Is it her?
We bumping, we chat to the birds. F29 is my address in case you ain't heard. It's flooding upstairs, it's elite. I don't make it squeak, make it squeak. I make this shit beat. Bon appetit when I'm feasting.
Slipping and slide through the streets. It takes a finesse, especially in this cabaret jeep. Engine make it hard to creep. Just leave the gate open. Through the side door, I'm a creep. Are you about to rail? And all the kids downstairs asleep. And are you obsessed by yourself? A minute from now, is it some room for me? Baby, do tell, do tell. Tell me, is you still love? It's 5 a.m. and I'm drunk right now. Tell me, can we still fuck? 101, I'm in the zone right now. Tell me, am I still? I'm telling you just how I feel right now. You say it's just the drugs. And I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. I lied to you way before, before, before I had you right in some wounds. But then again, I can be drunk.
C'était I Know de Travis Scott sur Radio Campus Orléans.
Tout de suite, nous retrouvons Paul et nos deux Zoé pour une chronique sur le sport. Comment allez-vous ?
Eh bien, c'est une belle journée, tout va bien. En pleine forme aujourd'hui. Hein.
Allez-y, je vous laisse présenter votre petite chronique.
Donc avec l'arrivée des Jeux Olympiques 2024, événement mondial qui débutera le vendredi 26 juillet, nous pouvons nous intéresser aux sportifs de haut niveau et se demander comment ils en sont arrivés jusque-là. Est-ce plus une histoire de talent ou de travail qui font leur performance ? Qu'en penses-tu, Paul ? Pour toi, le talent y est-il pour quelque chose ?
En effet, pour moi, quelqu'un de grand au basket, par exemple, est un atout pour ses performances. Un coureur qui a des grandes enjambées est un atout puissant pour la course. Donc notre génétique, c'est ce qui est inné en nous, pardon, a forcément une influence sur nos performances. C'est pareil pour la musique, quelqu'un qui a une belle voix va forcément titiller et influencer un auditeur, en fait. Donc pour moi, le talent a forcément un impact dans ce qu'on entreprend. Qu'on le veuille ou non, il n'y a guère de hasard dans nos savoir-faire. Et toi, Zoé, qu'est-ce que t'en penses ?
Effectivement, hein, il est vrai que nous entendons souvent parler du talent dans le sport, comme par exemple, ce joueur est talentueux, ce joueur est naturellement doué de la part des commentateurs sportifs. Mais en réalité, il y a vraiment une grosse partie de travail qui se cache derrière tout ça. Hein. Le travail, il permet d'améliorer ses compétences. Même si un joueur de foot, il a du talent, par exemple, et bah, le travail acharné va lui permettre de se développer et d'affiner ses compétences. Donc en résumé, la pratique régulière et l'engagement constant vont permettre de se faire progresser et d'atteindre de nouveaux niveaux de performance. Et je vais vous laisser donc avec Paul pour le mot de la fin.
Pour conclure ce débat, on peut dire qu'il y a une part de talent et aussi de travail pour réussir. Les deux sont liés. Les sportifs doivent donc allier les deux pour pouvoir exceller et être performants dans leur discipline sans pour autant se reposer sur leurs acquis. Il faut toujours aller de l'avant, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi une part de détermination pour y arriver et atteindre les sommets. Merci à vous.
Radio Campus 88.3.
Rémi Boulet, un sportif de haut niveau qui participera aux Jeux Paralympiques 2024. Donc on aura droit à un portrait avec Malou, Chloé, Léa et Koukaï.
Comment allez-vous les filles ?
Très bien, et vous ?
Super.
Alors aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'un sportif local d'Orléans qui participera aux Jeux Paralympiques de 2024. Et vous allez voir que son histoire est un peu atypique et que pour lui, devenir sportif de haut niveau a été une question de travail. On a eu la chance de pouvoir échanger avec lui par mail pour avoir son ressenti sur quelques points.
Cet athlète s'appelle Don Rémy Boulet. Il est né le 20 juin 88 à Lure en Haute-Saône, dans la région de Bourgogne-Franche-Comté. Il a grandi aux alentours d'Orléans, à Cloilly-sur-Loire, et il réside actuellement à Orléans. C'est un kayakiste handisport français exerçant dans le sprint et dans le marathon, et son parcours est un peu particulier.
En effet, avant d'être sportif de haut niveau, il était commandant parachutiste dans l'armée de l'air, raison pour laquelle Rémy s'est installé à Orléans afin de se rapprocher d'une plus grande ville, mais surtout du CPA-10, donc commandant parachutiste de l'air numéro 10, basé du coup à Orléans. Et il a participé à plusieurs opérations extérieures, par exemple au Mali, au Niger, en Afghanistan ou encore au Tchad.
C'est à l'âge de 26 ans, en 2014, que sa vie a basculé. À la suite d'un accident lors d'un entraînement opérationnel, la voile de son parachute ne s'est pas déployée correctement et il a fait une chute libre de plusieurs centaines de mètres. Il est devenu paraplégique, c'est-à-dire qu'il est paralysé au niveau des jambes. Et il dit « En arrivant sur le sol, je n'ai pas perdu connaissance, mais j'ai tout de suite compris que le bas de mon corps répondait plus. J'étais paraplégique. »
Après avoir passé plusieurs mois à l'hôpital, Rémy s'investit dans le sport afin d'accélérer sa reconstruction. Il choisit le kayak car c'est un sport qu'il pratiquait plus jeune. Il se donne un objectif assez fou, participer aux JO Paralympiques de Rio en 2016, où une épreuve de paracanoë est proposée pour la première fois. Sa plus grande performance reste, d'après lui, celle aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, qu'il décrit comme un accomplissement. C'était l'aboutissement de plusieurs années de sacrifices et de travail. En effet, il a gagné la médaille de bronze sur le 200 mètres.
Il a su faire de son handicap une force et il a continué au fur et à mesure des années à participer à des compétitions de paracanoë et augmenter son palmarès. Grâce à sa dernière performance en Allemagne, Rémy se sélectionne pour représenter la France aux Jeux Paralympiques de Paris en 2024. Et voici son objectif. Pour Paris, j'aimerais faire encore mieux qu'à Tokyo. J'espère une deuxième place et je rêve d'une première place.
Pour finir, on lui a demandé s'il avait un petit message à faire passer à nos jeunes auditeurs et voilà ce qu'il nous a répondu. Donnez-vous les moyens de réussir, la vie n'est pas facile, mais si on se lève chaque jour pour aller faire quelque chose qui nous plaît, c'est déjà plus agréable. Et les réussites sont encore plus savoureuses.
L'athlète est une belle représentation de l'espoir. Comme il dit, le handicap n'est pas une fin, mais le commencement d'une autre vie.
Danse, sport, esprit d'équipe, Jeux Olympiques, collectif,
passion, toi,
compétition, plaisir, qualité. L'émission sport sur Radio Campus 88.3.
Tout de suite, une chronique avec Lily et Chloé sur la gym artistique.
La gymnastique artistique est un sport très ancien qui date du 19e siècle et elle fait partie des sports qui concourent pour les Jeux Olympiques.
L'équipe de France féminine de gymnastique s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris l'été prochain grâce à 7e place lors des qualifications des championnats du monde à Anvers.
La gymnastique artistique comporte des compétitions individuelles par agrès ainsi que des concours individuels par équipe sur l'ensemble des agrès. Les différents agrès sollicitent chacune des qualités spécifiques qui sont par exemple les exercices au sol, le cheval d'arceau, les anneaux, le saut de cheval, les barres parallèles et la barre fixe pour les hommes, ainsi que le saut de cheval, les barres asymétriques, la poutre et les exercices au sol pour les femmes. Dans ces différents exercices spectaculaires, les figures et enchaînements demandent force, agilité, coordination et vitesse aux athlètes. Toi Lily, par exemple, qui a pratiqué de la gym durant certaines années, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu préfères comme activité?
C'est vrai que moi j'adorais faire de la barre et du sol. Et toi Chloé, tu as déjà testé la gym et qu'est-ce que tu as préféré?
Moi ce que je préférais à la gym c'était la poutre.
Maintenant on va voir les gymnastes à suivre pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc on a par exemple la quadruple championne olympique de Rio 2016, Simone Biles, qui est repartie avec une médaille d'argent et une de bronze à Tokyo 2020. On a également la française Mélanie de Jesus dos Santos qui sera également à surveiller, qui est championne d'Europe du concours général en 2019. La gymnaste de 22 ans s'est en effet envolée pour les États-Unis pour s'entraîner aux côtés de Simone Biles afin de préparer Paris 2024.
Oui, et on a également l'américaine Sunisa Lee qui a décroché le titre au concours général à Tokyo en 2020. Elle sera également à surveiller, tout comme la belge Nina Derwel, titrée en barre asymétrique.
Radio Campus 88.3.
Donc on va enchaîner avec le thème de la Formule 1. Toujours avec Lily et Chloé.
La Formule 1 est une discipline de sport automobile avec les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. L'événement sportif le plus médiatisé, Cette saison 2024 commence avec le champion du monde de Formule 1, Max Verstappen, pour la troisième année consécutive qui court pour l'écurie Red Bull.
Les courses de Formule 1 se déroulent toute l'année de mars à décembre partout dans le monde. Le public peut regarder les courses en allant sur le circuit ou bien en direct sur Canal+. Il y a également une série sur Netflix appelée Formula One, pilotes de leur destin, qui permet aux fans de revivre la saison précédente avec en bonus la préparation des pilotes.
La Formule 1 est un sport extrêmement dangereux. Les voitures elles roulent à plus de 200 km/h.
C'est 300 km/h pour rectification, mais en effet, il y a forcément des crashs du coup et des pilotes qui décèdent au cours de la course. Nous avons par exemple Ayrton Senna qui est décédé en 1994 au Grand Prix de Saint-Marin ou encore Jules Bianchi décédé en 2014 au Grand Prix du Japon.
Donc les Grands Prix se déroulent sur un week-end qui débute le jeudi avec les interventions pour les pilotes et les différents directeurs des écuries. Le vendredi laisse place aux essais qui permettent aux pilotes de tester le circuit et de développer leur stratégie pour la course. Le samedi c'est le jour de qualification, cela permet de savoir l'ordre de départ des pilotes. Et nous avons finalement le dimanche qui est le grand jour, donc le jour de course.
Le champion du monde de Formule 1 de 2023 est le pilote Max Verstappen de l'écurie Red Bull qui est champion pour la troisième année consécutive. Dans les pilotes à suivre, nous avons également les pilotes Lando Norris et Oscar Piastri qui font partie de l'écurie McLaren et qui nous font une excellente saison l'année dernière. Malgré un début compliqué, il y a également Lewis Hamilton, cette fois champion du monde, qui effectue sa dernière année pour l'écurie Mercedes avant de partir en 2025 chez Ferrari rejoindre le pilote Charles Leclerc.
Donc maintenant, on va poser quelques questions que vous pourriez vous-même vous poser. Donc Lily, le circuit le plus proche en France, c'est où ?
Alors, il y a en effet le Grand Prix de Monaco qui se déroule en mai. Il s'agit du Grand Prix le plus célèbre au monde. Et il y a également le Grand Prix de Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps, qui est un des circuits préférés des fans.
Et combien de tours doivent effectuer les pilotes lors de la course ?
Cela dépend en effet de la taille du circuit. Plus le circuit est grand, moins il y a de tours à effectuer. Et plus le circuit est petit, plus il y a de tours.
Danse, sport, esprit d'équipe, Jeux Olympiques, collectif,
passion,
victoire,
compétition,
plaisir,
qualité.
L'émission sport sur Radio Campus 88.3.
La danse, un sport ou un art avec Léa Modicom et Chanice.
En effet, nous allons débattre sur la danse. Beaucoup de personnes se demandent si celle-ci est un art, un sport, voire même les deux.
Alors le débat existe même au sein des JO 2024. Pendant longtemps, la danse était présente seulement lors des ouvertures ou fermetures des JO. Mais aujourd'hui, l'intégration cette année du breakdance remet en question cette vision. Et toi, qu'en penses-tu Léa ?
À mes yeux, la danse est un art, puisqu'elle permet de retranscrire des émotions, un peu comme dans un tableau. Cependant, je comprends qu'elle puisse être comparée à un sport, puisque cette pratique demande aussi un effort physique conséquent. Et toi, quelle est ton opinion sur cette question ?
Alors, selon moi, la danse est un art et à la fois un sport. Elle est rattachée à la musique car elle suit les mouvements tout en créant un rythme qui permet de ressentir la musique, mais aussi un sport parce que tout de même, elle est physique hein, et elle nous fait transpirer. Elle nous demande une certaine agilité et une connaissance de son corps. Par exemple, le hip-hop. Il nécessite de la force dans les bras, de l'esprit d'équipe, des pas techniques. Et le pole dance, pareil, la force dans les bras et une certaine agilité de son corps.
En effet, on peut aussi parler du classique qui demande un respect d'une certaine posture très droite, demandant de la force dans le ventre afin de tenir cette posture. Enfin, pour terminer, nous apportons tout notre soutien à Kali et Sissi, ces deux virtuoses du breakdance qui représenteront la France en 2024. Merci de nous avoir écoutés.
Merci.
Tout de suite, un son de Lana Del Rey, Art Déco.
Out on the floor, shining like a metal, golden and shining.
C'était Art Déco de Lana Del Rey sur 88.3.
Mode.
Tendance.
Culture.
Film.
Influence.
Cinéma.
Passion.
Plaisir. Divertissement.
Série.
Critique.
Dessin animé. Cartoon.
Radio Campus.
88.3.
Ensuite, Lily, Lou et Chloé Ruffier pour nous parler de leur chronique série Netflix, plateforme de streaming. À vous.
Alors, parlons maintenant des séries qui sont de plus en plus présentes grâce aux plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+.
Nous allons vous présenter une série qui est sortie récemment sur Disney+, Le Prince des Voleurs ou The Half-Foot Judger, qui est une série américaine sortie récemment en France. La série parle d'un prisonnier qui s'est évadé de prison et qui est devenu chirurgien, et d'une aristocrate, fille de gouverneur d'Australie, qui veut devenir chirurgienne en 1850. Il présente l'univers du Artful Dodger, personnage de Charles Dickens dans l'univers d'Oliver Twist, à son arrivée en Australie. Quand j'ai découvert cette série, j'ai tout de suite accroché à l'intrigue et au personnage. Aucun besoin de connaître l'univers d'Oliver pour découvrir cette série, car moi-même, je ne la connaissais pas.
En effet, Lou, moi aussi j'ai regardé cette série et j'ai beaucoup aimé. Parlons maintenant de nos séries favorites. Nous en avons toute une que nous regardons en boucle. Chloé, par exemple, quelle est ta série préférée ?
Alors moi, ma série préférée, c'est La Casa de Papel. Donc, c'est une série espagnole créée par Alex Pina. Elle a été produite entre 2017 et 2021. Et pour vous raconter un peu, c'est l'histoire de plusieurs braqueurs qui ont tous des noms de capital et ils vont faire un braquage dans une banque et tenir en otage des gens. Donc c'est une histoire très intrigante et pleine de rebondissements.
Alors moi ma série c'est Les Frères Scott, donc je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est une série qui est sortie en 2003, qui se déroule sur 9 saisons, donc il s'agit de l'histoire de deux demi-frères, Lucas et Nathan, qui ont le même père, seulement Nathan a été élevé par ses deux parents et Lucas n'a pas connu son père qui l'a abandonné avant sa naissance. Ils sont dans le même lycée et ont des groupes d'amis très différents, seulement une passion commune rassemble les deux frères, le basketball. Lucas va donc rejoindre l'équipe de basket du lycée dont Nathan est le capitaine. Cette série, elle aborde beaucoup de sujets différents et vous pouvez la regarder sur Amazon Prime Video.
Alors pour ma part, ma série préférée, c'est un peu le péché mignon de pas mal de fans. C'est une série qui a fait des heureuses quand elle est sortie sur la plateforme de streaming Netflix. C'est la série The Vampire Diaries. Elena, lycéenne de 17 ans, fait son entrée au lycée de Mystic Falls. Un mystérieux élève, Stéphane Salvatore, débarque à son lycée et tout va changer pour elle. Entre vampires et autres espèces surnaturelles, Mystic Falls est le repère de beaucoup de secrets. Cette série comporte 8 saisons avec 2 séries compagnons, la série The Originals et Ledger Size, qu'il faut regarder à partir d'un certain âge. Je vous conseille de regarder la série The Vampire Diaries en premier, The Originals et enfin The Ledger Size pour ne pas être spoilé de certains éléments qui se passent au cours des différentes séries.
En effet, Lou, moi aussi j'ai regardé cette série et d'ailleurs je vais même à la convention en mai qui a lieu à Paris.
Tout de suite, nous retrouvons Shanice qui remplace Lou pour nous parler de dessins animés de notre enfance, tout en les comparant avec ceux d'aujourd'hui.
En effet, nous avons pratiquement tous grandi avec les dessins animés et nous avons tous des préférences. Donc il faut savoir que le premier dessin animé s'appelait Fantasmagorie. C'est donc un dessin animé d'Emile Cole. Il est sorti en 1908 et il est considéré comme le premier dessin animé cinématographique réalisé dans le monde.
Il existe des dessins animés pour tous les goûts. Il y a par exemple des dessins animés d'aventure comme Dora l'exploratrice, des dessins animés de sport comme Foot de rue, des dessins animés de super-héros comme les Super Nana ou les Totally Spies, mais aussi des dessins animés instructifs comme Il était une fois la vie. Nous avons donc fait un sondage dans notre classe et nous avons demandé les dessins animés préférés de nos camarades et ceux qui reviennent le plus souvent sont les mini-justiciers, Charlotte aux fraises et les mystérieuses cités d'or.
Et vous les filles, c'est quoi vos dessins animés préférés quand vous étiez petites ?
Alors mes dessins animés préférés quand j'étais petite, c'était Charlotte aux fraises, Totally Spies et les Winx.
Moi c'était Corneille et Bernie, Milo et Lou.
Et moi c'était les Mystérieuses Cités d'Or, les Totally Spies et les Mini Justiciers.
Je ne sais pas si vous avez remarqué les filles, mais les dessins animés d'aujourd'hui sont très différents. Il suffit de comparer les versions originales de certains dessins animés comme Scooby-Doo, Maya l'abeille, Franklin, etc. avec leur remake, pour s'apercevoir que ces derniers ont totalement été dénaturés. Certes, les doublages sont mieux réalisés et sont adaptés du coup à notre technologie, mais on perd en même temps le côté un peu kitsch et le style bande dessinée télévisée qui faisait tout le charme de ces cartons. Qu'en penses-tu, Lily ?
C'est vrai que lorsque je vois les dessins animés que ma petite sœur regarde, c'est vrai que c'est très différent de quand moi, je l'ai regardé, c'est pas du tout les mêmes dessins animés.
Merci Lily pour ton avis et merci de nous avoir écoutés. Bonne journée à vous.
Donc on va parler maintenant de la chronique de la mode avec moi-même, Kylian et Clara Chanis.
Mode.
Tendance.
Culture.
Film.
Influence.
Cinéma.
Passion.
Plaisir. Divertissement.
Série.
Critique.
Dessin animé. Cartoon.
Radio Campus.
88.3.
La mode vestimentaire de notre société évolue continuellement au fil du temps, bien que les tendances semblent changer rapidement. Il y en a souvent qui soutiennent que la mode elle est cyclique et que les styles populaires y reviennent invariablement à la mode. Donc dans cette perspective, il est intéressant d'explorer si la mode vestimentaire c'est véritablement un éternellement recommencement ou si elle est en constante évolution.
Bien, Priscille, j'aimerais relever une chose que tu as dit sur la mode par cycle. On se rend compte, en examinant l'histoire de la mode, on peut identifier des tendances récurrentes où les styles passés refont surface. Par exemple, les années 80 ont connu une résurgence dans les années 2010 avec des éléments tels que les épaulettes et les pantalons à taille haute. Cette tendance cyclique suggère alors que la mode fonctionne par cycle, où les anciennes tendances sont réinterprétées et réintroduites dans le paysage finalement contemporain.
Tout à fait, Kylian, mais il ne faut pas oublier que malgré les similitudes avec le passé, la mode est également le terrain de l'innovation et de la créativité. Les designers, les stylistes repoussent constamment leurs limites avec des nouveaux concepts matériaux et techniques. Ces avancées contribuent à façonner de nouveaux styles qui peuvent être radicalement différents de ceux qui ont été vus auparavant, remettant en question l'idée même d'un éternel recommencement. Et toi, Clara, quel est ton avis ?
D'après moi, nous pouvons aussi dire que la mode est profondément influencée par la culture et la société dans lesquelles elle évolue. Les événements historiques, les mouvements sociaux et les avancées technologiques façonnent les préférences esthétiques et les valeurs qui se reflètent dans les vêtements. Ainsi, bien que certains éléments de mode puissent sembler familiers, leur signification et leur contexte peuvent différencier considérablement d'une époque à une autre.
Finalement, on peut dire que la mode vestimentaire est un domaine complexe où les éléments de continuité et de changement se mêlent de manière dynamique. Alors que certains aspects de la mode semblent revenir invariablement, la créativité et l'influence sociale garantissent que chaque nouvelle génération apporte sa propre interprétation unique. Ainsi, plutôt que de considérer la mode comme un éternel recommencement, il serait peut-être plus juste de la voir comme un dialogue continu entre le passé, le présent et le futur, où les tendances passées sont révisitées et réinventées pour refléter les réalités contemporaines.
Mode.
Tendance.
Culture.
Film.
Influence.
Cinéma.
Passion.
Plaisir. Divertissement.
Série.
Critique.
Dessin animé. Cartoon.
Radio Campus.
88.3.
Tout de suite, nous retrouvons Léa, Kouka et Chloé pour un tout autre sujet, la chirurgie en Corée du Sud. Allez-y les filles.
Connaissez-vous Squid Game, All of Us Are Dead, BTS ou encore Blackpink ? Cette vague de séries Netflix ou encore de musique arrivée depuis la dernière décennie n'a pas seulement exporté son divertissement en France, mais toute une culture.
Oui, la Corée du Sud, connue pour ses groupes de K-pop, ses stars de cinéma au cinéma et au visage et au corps parfait, cache de nombreuses choses, et notamment la chirurgie esthétique. Et en Corée du Sud comme en France, la chirurgie est utilisée pour se rapprocher de son idéal et pour correspondre aux standards de beauté. Mais pour autant, les standards de beauté du monde occidental ou oriental sont très différents.
C'est vrai qu'en France, les standards de beauté de la gente masculine reposent sur la virilité, donc être musclé avec une certaine carrure, être barbu ou encore avoir une peau bronzée.
Exactement, alors qu'en Corée, c'est le côté doux qui est populaire. Une belle peau, des lèvres pulpeuses, un corps mince mais tracé, même si récemment les Coréens s'inspirent de la West culture et commencent à sculpter leur corps de la même façon que les Américains. Et pour les femmes françaises, il faut principalement avoir des formes, une peau bronzée et des traits prononcés, notamment par le maquillage.
Mais à l'inverse, les Coréennes possèdent plus de critères comme avoir une peau claire, un corps mince sans trop de formes, de longues jambes, un visage fin, un nez pointu, des grands yeux et des lèvres pulpeuses légèrement accentuées par le maquillage qu'elles veulent comme naturel. Et c'est surtout parce que nos inspirations sont différentes.
La France est principalement inspirée par les stars américaines, notamment les Kardashians ou encore les stars de télé-réalité française. Mais en Corée, ce sont les stars de K-pop, de cinéma dominent et deviennent des exemples pour la jeunesse. Mais saviez-vous que les standards coréens s'exportent dans l'Europe ? Vous n'avez pas pu passer à côté de la série à succès mondial Squid Game ou encore le tube sorti en 2012 avec une danse du cheval et un clip assez décalé ?
Gangnam Style ?
Exactement. Il est monté à la deuxième place du Billboard en ayant atteint le milliard de vues en moins de 6 mois. Et cette exportation culturelle de la Corée du Sud s'appelle Hallyu, un terme chinois.
On y retrouve donc de la K-pop qui a explosé ces dernières années avec le groupe BTS et Blackpink, mais aussi les séries Netflix appelées K-drama avec Squid Game ou encore All of Us Are Dead.
C'est ça, aujourd'hui, de nombreuses personnes s'intéressent à la Corée du Sud, toute la culture, mais aussi à la chirurgie. Ces beaux visages coréens que l'on voit à la télévision et sur Internet font exploser la chirurgie en Corée du Sud, pays où cette chirurgie est banalisée.
C'est vrai que dès leur plus jeune âge, les Coréens et certaines Coréennes rêvent de refaire leur visage.
C'est d'ailleurs une récompense en échange de bonnes notes ou d'obtention de diplômes. Là-bas, l'apparence, c'est comme une compétence sur un CV. Il est plus facile d'obtenir un emploi avec un beau visage. J'ai entendu dire que dans un quartier de Séoul, on retrouve des milliers de cliniques dédiées à la chirurgie plastique. Oui, le quartier de Gangnam, un quartier riche. Dans ces cliniques, on y retrouve des chirurgies très populaires comme la rhinoplastie pour un nez pointu et plus haut, la mentoplastie pour un menton en V, l'opération de la double paupière pour se débrider les yeux. Et plus récemment, on retrouve le smile lift, appelé chirurgie du sourire permanent, où l'on redresse les coins des lèvres et les gyosales en gonflant la paupière inférieure pour un regard rieur.
Vous saviez que pour 100 000 habitants en Corée en 2019, on comptait près de 2200 interventions chirurgicales, alors qu'en France, on en comptait seulement 479.
C'est une grosse différence, mais ce chiffre peut être expliqué par la pression moins forte que subit en Corée du Sud par des critères moins stricts.
C'est sûr, en France, on retrouve aussi la mentoplastie pour un menton en V, mais aussi, on a surtout l'augmentation mammaire et tout ce qui concerne les injections au Botox.
La culture coréenne s'est tellement exportée dans le monde qu'à la clinique des Champs-Élysées, ils proposent certaines chirurgies comme celle de la double paupière pour se débriser les yeux. Et vous, la chirurgie, vous en pensez quoi ?
Ben oui, dites-nous vous les filles, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre ? Parce qu'on sait qu'actuellement, ça fait beaucoup parler, la chirurgie.
Personnellement, je ne ferai pas de chirurgie parce que je n'ai pas les moyens. Mais pour celles qui ont des complexes,
ouais,
ou qui veulent tout simplement changer, pour même les tueurs en série qui veulent changer de visage aussi, c'est pas mal. Mais bon, c'est un conseil pour certains, mais pas pour d'autres.
Et toi, Léa ?
Moi, je n'ai pas forcément d'avis là-dessus, mais si on reprend sur notre sujet de la Corée, je trouve ça peut-être un petit peu excessif d'être une récompense de bonnes notes pour des enfants assez jeunes.
Bon, tout de suite, le jingle.
Radio Campus 88.3.
Tout de suite, nous retrouvons Zoé et Zoé.
Nos deux Zoé.
De cuisine, de recettes faciles, manger bien, pour pas cher.
Pas cher.
Et toi, Priscille, t'en as des recettes ?
Ah bah écoute, moi je me fais des petits haricots avec du thon et puis ça ira très bien quand j'ai la flemme.
T'as bien raison.
Et toi ?
Il faut mettre le casque ?
Non, moi pas spécialement.
Ouais. Bon après, il y a les fast-foods maintenant qui nous sauvent un peu
c'est
la
vrai,
vie.
C'est vrai. Allez-y les filles.
À vous les filles.
Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler des recettes délicieuses, rapides et économiques, parfaites pour donc nous les étudiants. Pressé et créatif. Donc que vous soyez en colloque, en résidence universitaire ou tout simplement en train de jongler entre les cours et les travaux, nous avons des idées savoureuses qui s'adapteront à votre emploi du temps chargé et à votre budget serré. Donc moi je vais demander à Marceau s'il aurait des petits conseils à proposer à nos étudiants qui nous écoutent.
Alors oui, en tant qu'étudiant, moi il y a plusieurs points, je vais essayer de vous donner des infos pour avoir le courage de vous faire à manger en sachant qu'on n'a pas forcément les moyens et le temps en tant qu'étudiant. D'abord, un petit conseil, le premier que je peux vous donner, c'est d'installer sur vos téléphones l'application Too Good To Go qui permet de récupérer des paniers à prix cassé près de chez soi. Et puis, il y a un autre point, il ne faut pas hésiter à aller fouiller dans les différents supermarchés. Il y a des étals à la fin, dans les coins des boutiques pour trouver des produits moins chers parce qu'ils arrivent à la date d'expiration des produits. Et toi, Zoé, est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner ?
Eh oui, Marceau, j'ai d'autres conseils. En tant qu'étudiante, nous pouvons aller manger au restaurant universitaire où le menu est seulement à 3 euros et pour les boursiers, à 1 euro. Prévoir ses repas à l'avance permet aussi d'éviter les achats compulsifs et de manger rapidement. Nous laissons la parole à nos amis les pâtissiers.
Nos amis les pâtissiers, Lou et Léa Modicom. Donc, pâtisserie, recettes simples et food hack sur les réseaux sociaux. À vous les filles.
Pas besoin d'être un génie pour faire un peu de pâtisserie. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut trouver vraiment simplement des recettes faciles à faire et sans trop de matériel. Parfait pour les étudiants.
En effet, on peut par exemple citer la chaîne YouTube 750 grammes qui est dorénavant présente sur tous les réseaux sociaux, qui propose des recettes simples et variées. On retrouve aussi plein de food hacks sur TikTok, ces petites astuces qui font gagner du temps et de l'argent. Et toi Lou, as-tu des petites astuces à nous transmettre ?
Oui, par exemple sur TikTok, on voit souvent la fameuse mousse au chocolat avec juste de l'eau et du chocolat mixé. Pas bien sorcier, visiblement ça fonctionne. Et toi Léa, pâtisses-tu ?
Eh oui, j'adore la pâtisserie, je suis une gourmande dans l'âme. Il m'arrive souvent de m'inspirer de recettes trouvées sur Instagram ou TikTok et tous les réseaux sociaux. Parfois, ça a l'air plus simple en vidéo et en réalité, on est un peu déçu, mais ça donne aussi des idées, on peut être très très fier de soi.
Quels sont les influenceurs Patrick Street que tu pourrais nous conseiller ?
Alors, sur TikTok et Instagram, je suis plusieurs comptes tels que la classique Fast Good Cuisine, C'est Tarpa Bon, Diego Alari, Food Pâtisserie et Vito Vidéo qui lui donne de superbes adresses pour se régaler dans la région parisienne.
Eh bien, merci Léa pour toutes ces petites références que nous irons consulter avec plaisir.
Les filles, pouvez-vous peut-être nous dire quelle est votre pâtisserie préférée ?
Alors moi, j'adore le Paris-Brest.
Pour ma part, c'est plus la tartelette fraîche.
Ok,
très
super.
Bien. Et toi, Kylian ?
Alors moi, c'est le carrot cake, je crois, et le tiramisu.
Oui. Pareil, exactement pareil. On a un peu les mêmes goûts, hein, finalement. Alors tout de suite, Flowers de Miley Cyrus.
We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. See things you don't.
Flowers sur Radio Campus Orléans. Donc tout de suite, Marceau, qui a d'ailleurs été ambiancé par la musique, va nous parler avec Sharon du développement personnel, donner quelques conseils, etc.
Merci à vous pour cette intro. Bienvenue à tous dans cette chronique sur le développement personnel et la confiance en soi, spécialement conçue pour vous, les auditeurs étudiants. On cherche à cultiver avec vous votre potentiel et à atteindre les objectifs pour vous assurer une bonne assurance. Le développement personnel, c'est un voyage continu d'exploration de soi-même, de croissance et d'amélioration. Il englobe divers aspects de notre vie, y compris nos compétences, nos émotions et nos relations et notre bien-être général. Voici quelques conseils pratiques pour commencer votre parcours vers une meilleure confiance en vous et un développement personnel épanoui. définissez vos objectifs.
Alors tout d'abord, moi je vous conseillerais de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez réaliser à court et à long terme. Établissez des objectifs clairs, mesurables et réalisables parce que ça vous aidera à rester concentré et motivé. Et aussi adopter une mentalité de croissance.
Croyez, oui, en votre capacité à apprendre et à vous améliorer. Acceptez les défis comme des opportunités d'apprentissage et de développement, plutôt que de les considérer comme des obstacles insurmontables. Il faut aussi travailler son estime de soi, non ?
Bah oui, apprenez à vous accepter, à vous aimer tel que vous êtes. Identifiez vos forces et vos faiblesses et concentrez-vous sur la valorisation de vos points forts tout en travaillant sur vos domaines à améliorer. Mais aussi, sortez de votre zone de confort, c'est important.
C'est ça, ne craignez pas l'échec ou le rejet. Osez prendre des risques et explorer de nouvelles expériences. C'est souvent en sortant de notre zone de confort que nous découvrons notre plein potentiel. Pratiquez l'auto-comparaison.
Bah oui Marceau, soyez toujours gentil avec vous-même, ne vous dévalorisez pas, traitez-vous avec la même compassion que vous traiteriez un ami. Apprenez à vous pardonner pour vos erreurs et à vous encourager dans les moments difficiles. Cultivez aussi des relations positives.
C'est ça, entourez-vous de personnes qui, comme nous aujourd'hui autour de cette table, sont de confiance et qui soutiennent et inspirent. Évitez les relations toxiques qui sapent votre confiance en vous et votre bien-être émotionnel. Gérer le temps, c'est important aussi.
Bah oui, il faut aussi établir des priorités, organiser votre emploi du temps et apprenez à dire non aux distractions qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. La gestion du temps, elle est essentielle. Ça vous aidera à maintenir un équilibre entre travail, études et loisirs. Prenez soin de votre bien-être physique et mental. Accordez de l'importance à votre santé en faisant de l'exercice régulièrement, en mangeant sainement et en donnant suffisamment. Pratiquez également des activités qui vous détendent et vous ressourcent, comme la méditation, le yoga ou encore la lecture.
En conclusion, le développement personnel et la confiance en soi, ce sont des compétences essentielles pour réussir dans la vie et s'épanouir en tant qu'individu. En suivant les quelques conseils que nous avons pu vous donner et en restant surtout engagé dans votre parcours de croissance personnelle, vous pouvez surmonter les obstacles, réaliser vos rêves et atteindre votre plein potentiel. N'oubliez pas que chaque petit pas compte, alors commencez dès aujourd'hui et continuez à avancer vers une version meilleure et plus confiante de vous-même. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle chronique.
Si je vous dis Michel Fourniret ou Monique Olivier, ça te dit quelque chose à toi, Priscille ?
Pas du tout, mais je pense qu'on va en parler.
Oui, c'est ce que nous allons voir tout de suite avec Zoé et Clara.
Radio Campus 88.3.
À vous les filles, Zoé et Clara, Zoé au pluriel.
Eh bien bonjour et bienvenue sur notre chronique spéciale sur les affaires criminelles. Aujourd'hui, nous allons vous parler des affaires criminelles très fréquentes, même si nous ne les connaissons pas toutes. Certaines ont marqué la France entière avec des histoires sordides dont on ne connaît pas toute l'histoire ni la vérité. Comme le petit Grégory qui perdure depuis 1984 ou encore Xavier Dupont de Ligonnès qu'on n'a jamais encore retrouvé. Les personnes s'intéressent plus particulièrement aux affaires criminelles car cela suscite une certaine curiosité. Elles peuvent être captivantes et intrigantes, même s'il est préférable de se concentrer sur des sujets positifs et constructifs. Mais la réelle question est pourquoi y a-t-il autant d'engouement autour de ces affaires criminelles ?
L'engouement autour des affaires criminelles peut être attribué à plusieurs facteurs qui interagissent de manière complexe avec la psychologie humaine et les dynamiques sociales. Et est-ce que Clara, tu peux m'en dire un petit peu plus sur ça ?
Oui, bien sûr. Donc tout d'abord, les affaires criminelles attirent notre curiosité innée pour l'inconnu et le mystère. Elles sont souvent entourées de questions sans réponse, de détails cachés et de motifs obscurs, nous incitant à rechercher des réponses et à élaborer des théories. En plus de ça, ces histoires offrent un aperçu fascinant de la psyché humaine. Elles révèlent les aspects les plus sombres de notre nature, explorant des thèmes comme la violence, la manipulation, la cupidité et la folie, nous incitant à nous interroger sur ce qui pousse certains individus à commettre de tels actes. En plus, les affaires criminelles sont souvent remplies de suspense et de tensions narratives. Les rebondissements inattendus, les fausses pistes et les moments de tension dramatique nous tiennent en haleine jusqu'à la résolution finale, nous offrant un divertissement captivant.
Mais en plus, au-delà de l'aspect divertissant, suivre ces histoires peut également être éducatif. Elles nous sensibilisent aux questions de la justice pénale, de la sécurité publique et même de la prévention du crime, nous incitant à réfléchir aux défis sociaux auxquels nous sommes confrontés à l'heure actuelle et aux moyens de les surmonter. Les affaires criminelles nous permettent donc d'explorer le fonctionnement du système judiciaire et les mécanismes de la justice, en suivant par exemple les enquêtes, les procès et même les verdicts. Nous sommes donc témoins de la façon dont les lois sont appliquées et des conséquences de nos actions en société. Voilà, voilà, et on va maintenant laisser la parole à nos camarades pour parler de l'abstention en politique.
En effet, politique, abstention, c'est ce que nous allons voir tout de suite avec Marceau, Paul et Chloé.
Radio Campus
88.3.
Je ne me suis pas inscrit aux listes.
Moi non plus, mais je pense qu'en tant que citoyen, c'est important de nous donner son vote.
Il est vrai.
Bon, alors tout de suite la parole, Marceau, Paul et Chloé, pour nous parler de politique.
On vous écoute.
À vous les jeunes.
Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, on parle de l'abstention, un sujet qui touche tous les jeunes aujourd'hui, parce qu'ils manquent peut-être d'intérêt ou par peur de prendre position. Il est donc important de discuter d'une cause majeure qui pose problème.
Et Paul, toi, t'en penses quoi ?
Pour moi, il est important de voter car ça permet d'avoir un avis sur les décisions de l'État. Je pense que les personnes qui ne sont pas en accord avec certaines lois feraient mieux de voter et de propager les causes qui les impactent. Et oui, il ne faut pas être mécontent si tel président est élu ou pas, si on ne vote pas. C'est le principe de la démocratie.
Donc nous allons définir ensemble l'abstention.
Si pour certains, s'abstenir est un outil pour dénoncer le jeu politique, cela est aussi le résultat d'un éloignement, d'un désintéressement de la vie publique par les citoyens. Lassés des belles paroles, ayant perdu espoir à la démocratie représentative. Même si c'est pourtant l'abstention qui obtient à chaque élection un score record, comme 28% des votants au second tour de l'élection présidentielle de 2022, elle ne nous fait pas gagner collectivement. Sur ce suffrage, l'Institut de sondage Ipsos révèle dans une enquête le profil des abstentionnistes. D'abord, le taux d'abstention est inversement proportionnel à la catégorie d'âge. 41% des 18-24 ans, alors que seulement 15% des plus de 70 ans s'abstiennent. C'est un constat que partagent de nombreux pays développés. Les électeurs ne se déplacent plus aux urnes. Au Japon, en 2021, la participation n'atteignait que 56%. Et en fait, Chloé, sais-tu s'il existe des moyens pour éviter de biaiser la représentativité des votes avec un trop fort d'abstention ?
Eh bien oui, si on veut diminuer le taux d'abstention, on pourrait faire comme nos voisins les Belges. En effet, en Belgique, les poursuites et les peines encourues en cas d'abstention à l'élection sont prévues aux articles 209 et 210 du Code électoral. Une première abstention non justifiée est punie d'une réprimande ou d'une amende de 5 à 10 euros. En cas de récidive, l'amende sera de 80 à 200 euros. L'abstention peut aussi ouvrir une récompense. Aux États-Unis, par exemple, on offre dans certaines villes un burger ou des chèques cadeaux. Mais il existe aussi une pratique qui vise à montrer fièrement que l'on a voté et accompli ce devoir citoyen en jouissant d'un droit. Il peut s'agir d'une story sur Instagram avec un autocollant « J'ai voté et toi ?» ou un badge à apposer sur une veste en sortant du bureau de vote.
Mais pourquoi faire ? Tu peux nous expliquer ?
Eh bien, de nombreuses études ont montré que l'effet de masse pouvait permettre de motiver et encourager à aller voter. Alors pourquoi pas tous agir d'une manière simple et qui ne coûte rien ?
Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Maintenant, on va passer à une petite interview. Est-ce que tu peux te présenter ?
Alors bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année de BTS Communication.
Merci Louise d'avoir accepté de répondre à nos questions. Tout d'abord, est-ce que tu as déjà voté ?
Non, je n'ai pas encore voté parce que moi je suis de fin d'année, donc j'ai eu mes 18 ans seulement après les élections présidentielles.
Très bien. Et est-ce que tu sais quand on est appelé pour la prochaine fois aux urnes ?
Oui, c'est pour les élections européennes en juin cette année.
Est-ce que tu as la date précise pour appeler tout le monde à voter ?
Le 8 et 9 juin 2024.
C'était presque ça, c'est que le 9 juin. Merci beaucoup Louise.
Merci les garçons et les filles. Alors tout de suite, on va passer à l'affluence, un métier, de l'argent facile. Hein, voilà, ça fait beaucoup parler en ce moment. Donc voilà, l'influence avec donc moi-même et Kylian et notre amie Clara.
Radio Campus 88.3.
Donc le métier d'influence, sœur, qui est devenu une profession à part entière hein, dans le paysage médiatique contemporain, sur les réseaux sociaux, ces individus y créent du contenu attractif pour attirer une audience fidèle et engagée. Mais derrière l'apparence de facilité et glamour de cette profession, eh bien, ils se cachent souvent des méconnus et des difficultés.
Oui, donc avec l'avènement des réseaux sociaux, l'influenceur est devenu une figure emblématique de la culture contemporaine. Leur capacité à influencer les opinions, les tendances, voire les comportements d'une large audience en fait des acteurs incontournables du monde numérique.
Oui, et d'ailleurs, savez-vous que le métier d'influenceur est maintenant légiféré par la loi depuis janvier 2024 exactement ? Donc voilà, que ce soit création de contenu, engagement avec les abonnés, collaboration avec des marques, gestion de la présence en ligne, l'influenceur exerce un métier complexe et multifacette. Il doit constamment innover pour rester pertinent et concurrentiel dans un environnement saturé.
L'argent facile, hein, c'est une question que beaucoup se posent et qui fait débat. Donc c'est une perception qui est largement répandue, hein, mais souvent trompeuse. Si certains influenceurs réussissent à générer des revenus considérablement grâce à des partenariats avec des marques, des collaborations et des publicités, la réalité est que le succès de ce domaine exige un investissement important en temps et en énergie et la compétition est féroce. Ainsi que la monétisation de son influence peut être volatile et imprévisible. De plus, hein, il faut savoir que c'est légiféré par la loi.
Donc pour conclure, nous pouvons dire que le métier d'influenceur, est à la fois passionnant et exigeant. Si certains parviennent à en faire une source de revenus confortable, il ne faut pas sous-estimer cependant les défis et les sacrifices inhérents. À cette profession, l'influenceur doit jongler entre créativité et réalité financière pour prospérer dans un univers numérique en constante évolution.
Radio Campus 88.3.
Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. C'était les BTS Communication du lycée Saint-Paul-Bourdon-Blanc sur 88.3.
N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Radio Campus ou sur leur Facebook si vous souhaitez nous retrouver sur d'autres plateformes. À bientôt
et bonne journée.
Saint-Paul des Arts, lycée Saint-Paul-Bourdon-Blanc, Radio Campus 88.3. Les BTS Com vous présentent leur émission sur Radio Campus 88.3. Culture, sport, musique, écoutez-nous sur Radio Campus 88.3.
We'll be right back.